Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est un entrepreneur de théâtre qui ne cesse de prendre des risques, qui fait faillite, qui innove, qui saisit l'occasion. Et si on le connaît encore aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il s'est imposé comme un publicitaire de premier ordre. Ainsi était Jean-Baptiste Poquelin, raconté par Christophe Chouvet et Jules Grandin dans l'Atlas Molière. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et dans ce deuxième acte consacré à Molière, on va continuer de dépeindre le Molière entrepreneur derrière le saltimbanque, diplômé des hautes études en comédie.
Le fils du tapissier s'appelle Jean-Baptiste et il a décidé de devenir artiste. Au lieu d'être patron de quelques apprentis, il sera simplement valet de comédie.
Dans le précédent épisode de La Story, on avait laissé Molière déménager son illustre théâtre vers le jeu de paume de la Croix-Noire, non loin du Marais et de la Place Royale. Il n'est pas vraiment valet de comédie, comme le chante Mireille Mathieu en 1982. Il en est le patron, le dirigeant, le visionnaire.
C'est un métier du sentir et non du paraître.
Monsieur Molière.
Le plus important, c'est de pouvoir vivre de votre art. Jouer des comédies qui explorent l'âme humaine.
Ce genre de comédie n'existe pas.
Eh bien, inventez-le.
Cachez donc ce sein que nous ne saurions voir. Je dois écrire mes propres pièces, voilà tout.
Dans le Molière de Tirard, avec Romain Duris et Fabrice Lucchini, nous sommes en 1644 et Molière se cherche encore. Dans le monde des start-up, l'échec fait partie souvent de l'histoire. C'est ce qui arrive quand on prend des risques. Christophe Chouvet, vous êtes l'auteur de l'Atlas Molière avec Clara De Alberto et Jules Grandin. En 1644, Molière va se planter avant de rebondir?
Ils vont se planter avec l'illustre théâtre. Alors, c'est une histoire qu'on raconte. Donc, la première année se passe merveilleusement bien, notamment parce que le Théâtre du Marais, l'un des deux concurrents, prend feu. Et donc, il n'y a plus qu'une autre salle à Paris pendant un an. Et donc, on peut jouer et le public afflue à l'illustre théâtre. Mais une fois passé l'effet de nouveauté, bon, on a vu ce que c'était l'illustre théâtre, et puis le Marais réouvre avec une nouvelle salle toute équipée, eh bien, c'est la faillite. Les spectateurs et spectatrices se lassent de l'illustre théâtre, n'y viennent plus. On manque de capitaux pour relancer la machine, on essaye de déménager, mais enfin, rien ne fonctionne. Surendettement, et puis faillite. Et c'est vraiment un principe de surendettement. La troupe réemprunte pour essayer de se maintenir à flot, et puis il y a un moment où ça ne suffit plus et où Molière finit une nuit en prison, avant de voir dissoudre l'illustre théâtre et puis d'être racheté, quelque part, par une compagnie concurrente qui est la troupe de Dufresne.
Parce qu'il y a une concurrence féroce entre les troupes de théâtre à l'époque. Hein.
Là aussi, on est au moment où le théâtre devient ce business extrêmement concurrentiel où vous ne jouez les pièces pas pour la beauté de l'art, mais parce qu'elles fonctionnent. Et quand elles ne fonctionnent plus, vous les déprogrammez. Donc vous avez les troupes fixes à Paris, puis vous avez les troupes de campagne qui circulent, qui passent à Paris, qui se font, qui se défont. Et à chaque fois, c'est une prise de risque. À chaque fois, c'est les contrats d'association. À chaque fois, c'est l'espoir de réussir, de créer sa niche. Et voilà ce qui se passe avec l'illustre théâtre, c'est que ça marche, puis ça ne marche plus, et puis on rejoint une autre troupe.
Allons, vite! Des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gênes, des potences et des bourreaux! Je veux faire pendre tout le monde! Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après!
Suffit!
Molière ruiné. Molière n'a plus un sou. Vaincu par la concurrence de l'Hôtel de Bourgogne et du Théâtre du Marais, il est poursuivi par les créanciers et il ne doit sa liberté qu'à sa famille et à ses amis. Son père doit lâcher la belle somme de 1965 livres dans la faillite de l'illustre théâtre. Il lui rappellera son échec à chaque repas de famille. Molière mettra 21 ans à le rembourser. Molière se lance alors dans un tour de France. C'est l'époque de la reconquête, avec des fusions-acquisitions, la recherche de sponsors, jusqu'au retour à Paris en 1658. Il a 36 ans, il co-dirige la troupe de Philippe d'Orléans, le petit frère de Louis XIV. Il va leur ouvrir les portes du jeune roi Soleil.
Oui, alors pendant plusieurs années, ce sera quand même la troupe de Philippe d'Orléans, mais c'est sûr que c'est intéressant parce qu'ils sont partis en fait de Paris au moment de l'illustre théâtre. Ils avaient le soutien de l'ex-frère du roi, c'est-à-dire le frère de Louis XIII, et puis ils passent en province, ils passent de protecteur en protecteur, et ils reviennent à Paris, troupe du nouveau frère du roi, donc Philippe d'Orléans. Et à partir de là, vous avez en tant que troupe une reconnaissance. C'est pas tellement financier parce que Philippe d'Orléans ne leur versera jamais rien, mais c'est une reconnaissance officielle qui effectivement vous ouvre les portes des grandes fêtes royales où vous êtes invité en visite, vous êtes invité dans les châteaux. Mais là encore, ce qui est intéressant, c'est encore une fois, on se dit, bon ben voilà, ils ont réussi. Philippe d'Orléans, le frère du roi, on peut pas arriver mieux. Le protecteur donne son nom. Au-delà de ça, passé la première année du retour à Paris, eh ben on retrouve les mêmes problèmes et les mêmes risques qu'au moment de l'illustre théâtre. Une fois passé l'effet de nouveauté, le frère du roi, bon, il a autre chose à faire. Et puis, on voit très bien que les visites diminuent. On a vu la nouvelle troupe, on a vu le nouveau phénomène. Bon, on pourrait passer à autre chose. Donc là aussi, on est dans un monde qui ressemble pas tellement à ce XVIIe siècle très contrôlé où les rois décident de tout. Il y a quelque chose de très libéral, déjà, dans le fonctionnement des entreprises.
Avec un effet de lassitude ?
Avec un effet de lassitude très rapide. La nouveauté, c'est la valeur cardinale de cette littérature, que ce soit littérature ou théâtre du XVIIe siècle. Ce qui est nouveau attire. Et puis, très rapidement, la nouveauté, ça passe.
Le succès, il va quand même finir par arriver avec un tournant en 1660, lorsque sortent les précieuses ridicules.
Je connais ce qui nous a fait mépriser. L'air précieux n'a pas seulement infecté Paris, il s'est aussi répandu dans les provinces. Et nos donzelles ridicules en ont humé leur bonne part.
Alors, les précieuses ridicules, c'est la recette Molière par excellence. Et quand on a compris les précieuses ridicules, quelque part, on a compris tout Molière.
Vous dites que c'est un blockbuster, pourquoi ?
C'est une pièce qui fait passer la troupe de recettes très médiocres, proche de la faillite, à des recettes mirobolantes. On voit, et on le voit dans le livre, hein, c'est les recettes de la troupe, mais ça veut dire aussi les recettes des acteurs et des actrices. Et puis, ça veut dire aussi une couverture, c'est le début de ce Molière médiatique dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment la couverture, c'est le phénomène de société, ça fait tout éclater à Paris. Ça transforme les règles du jeu du théâtre parisien. La recette Molière, ce qui explique cette réussite, c'est, on peut résumer en trois choses. La première, c'est que Molière se dit, bon, pour réussir, il va falloir disrupter. Il va falloir trouver une formule qui est unique. Et cette formule unique, c'est de traiter l'actualité immédiate. Les comédies mettent en scène des situations types. Les précieuses ridicules mettent en scène les toutes dernières modes vestimentaires, les toutes dernières modes littéraires, les toutes dernières tendances. Justement, ces best-sellers, ces derniers sitcoms, on s'en moque sur scène. Et c'est ça qui fait le cœur de la pièce. À cela, Molière ajoute un jeu d'acteurs beaucoup plus physique que les autres troupes françaises. Ils jouent notamment avec les Italiens, ils se partagent leur salle, et les comédiens italiens ont ce jeu beaucoup plus fondé sur le corps, mais ils jouent en italien. Or, ce que Molière fait, c'est qu'il transpose cette manière de jouer du théâtre au théâtre français. Ça, c'est le deuxième élément. Et puis, le troisième élément magique, c'est le titre. Les précieuses ridicules. Pendant longtemps, on s'est dit « Ah, Molière a voulu écrire une pièce sur les précieuses. » En fait, c'est l'inverse. Molière a voulu écrire une pièce sur l'actualité immédiate parce qu'il s'est dit que ça capterait l'attention du public. Et comment, au moment d'intituler sa pièce, l'idée de génie, c'est de prendre le buzzword du moment, qui est ce terme de « précieuse », qui est une insulte. Un peu comme aujourd'hui woke ou islamo-gauchiste, c'est-à-dire que ça ne recoupe rien de précis, mais on l'utilise pour dénigrer quelque chose, pour dénigrer un groupe, en l'occurrence pour dénigrer le mouvement de société de fond qui arrive à ce moment-là, qui est l'éducation des femmes et la nouvelle place dans la société qu'acquièrent les femmes. Et donc les femmes qui commencent à prétendre à pouvoir, par exemple, décider de qui elles épousent ou de jouir d'une éducation raisonnable, bien celles-ci, on commence à les traiter de précieuses. Et donc ce buzzword qui avait donné lieu à un roman quelques années plus tôt, Molière s'en saisit et fait une pièce qui s'appelle Les précieuses ridicules. Mais là encore, en réalité, la pièce n'est pas à propos des précieuses, c'est simplement l'utilisation du dernier terme à la mode. Et ces trois choses, c'est vraiment la recette Molière.
Et alors là, l'argent va se mettre à couler à flot. Jules Grandin, c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en graphe avec Clara de Alberto ?
À partir de la première des précieuses ridicules, qui est, comme le disait Christophe et comme on dit dans le livre, le premier vrai blockbuster de Molière, c'est vrai qu'on peut dire que l'argent va un peu commencer à couler à flot, surtout par rapport à avant. Il me semble, enfin je cite de mémoire, mais je crois que la part de chaque acteur décuple par rapport aux représentations précédentes, puisque dans le registre Lagrange dont je parlais au début de notre émission, Lagrange note pour chaque soir la recette totale et la part de chaque acteur. qui est assez intéressant parce que ça nous permet de voir que on est dans une logique, alors pas communiste, mais pas très très loin. En tout cas, à partir de cette première des précieuses ridicules, c'est vrai que les recettes vont exploser.
Christophe, on a parlé donc de ce Molière entrepreneur, mais le couple Molière-Béjart sont aussi de brillants publicitaires et marketeurs à la façon des rappeurs américains.
Oui, encore une fois, Molière disrupte tout, pas seulement la composition des pièces, mais aussi la manière de promouvoir son théâtre. Alors encore une fois, en investissant dans la presse, qui ne se faisait pas tant que ça jusque-là, il y a l'utilisation de ces nouveaux médias, ça passe par d'autres gens, par notamment une influenceuse qui s'appelle Marie-Catherine Desjardins, qui est elle-même une star à l'époque et qui s'occupe de raconter la pièce des précieuses, raconter ce qu'elle appelle la farce des précieuses dans un ouvrage qui circule comme si Molière n'y pouvait rien, hein, exactement comme les mixtapes qui circulent soi-disant de manière automatique. Et puis, l'autre stratégie qui ne peut que faire penser au rap américain, c'est la stratégie de la battle, c'est la stratégie du fight. C'est-à-dire que Molière comprend, surtout à partir de l'école des femmes, qu'une des meilleures manières d'attirer l'attention sur son travail, c'est de susciter la controverse, c'est de susciter le buzz en créant justement un débat autour de sa pièce. Et c'est pour ça qu'il compose cette pièce qui s'appelle « La critique de l'école des femmes », parce qu'une fois passée la nouveauté de l'école des femmes, ben, les recettes s'effondrent, parce que voilà, on a vu la pièce, on n'y retourne pas forcément. Et donc là, il lance cette critique de l'école des femmes qui met en scène des critiques imaginaires, en réalité, mais très très bien vues. Une prude qui dit « cette pièce, c'est affreux, ça parle de choses sales ». Un marquis, ancêtre de nos hipsters, qui dit « oui, de toute façon, toute la salle rit, donc moi, je vais surtout pas rire ». Un auteur qui dit « oh là là, c'est pas selon les règles, donc c'est pas bien », etc. Donc des critiques qui sont évidemment ridicules, mais qui créent la controverse. Et à partir de là, ça démarre. Vous avez des auteurs et autrices autour de Molière qui prennent position, qui écrivent leur propre critique de l'école des femmes, leur propre réaction à ça. Et évidemment, alors pendant longtemps, on s'est dit « Oh là là, pauvre Molière, il est attaqué de toutes parts ». C'est exactement l'inverse qui se passe. Évidemment, Molière en profite complètement parce que ça conserve l'attention autour de sa pièce et de sa critique de l'école des femmes. Et on peut voir dans le registre de Lagrange, la création de la critique de l'école des femmes, c'est le retour de l'école des femmes au devant de la scène et des recettes.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça dit beaucoup de choses de la modernité de Molière. Enfin, ça devait être, j'imagine, moins neuf pour Christophe, mais pour Clara et moi qui ne connaissons pas Molière sur le bout des doigts comme lui, on a pu se rendre compte qu'en fait, Molière, il met en place des choses qui, si on les voyait aujourd'hui, nous, au théâtre, nous paraîtraient d'une folle modernité. Par exemple, il crée une pièce où il met en scène sa propre troupe et où les personnages s'appellent, du coup, Molière, Armand Béjart, qui s'appelle L'impromptu de Versailles, et où en fait, il fait une pièce sur lui-même. Et ce qu'il fait également, et on peut le trouver dans les comptes rendus d'une grande fête qui s'est déroulée à Versailles et dans laquelle la troupe de Molière a donné une pièce, c'est écrit, quelqu'un en fait le compte rendu, et il écrit au début que Molière ainsi qu'une autre actrice de sa troupe ont fait vraiment beaucoup rire le public en s'installant au début parmi les spectateurs et en ayant une discussion comme s'ils étaient de simples spectateurs. Et ça, en fait, c'est des techniques. Si on les voyait aujourd'hui au théâtre, on dirait « mais c'est génial, quelle folle modernité !» Alors que, en fait, ça se faisait déjà à l'époque.
Et c'est vrai, dans cette idée de faire parler de soi, il y a ce buzz bon ou mauvais qui est toujours bon à prendre, mais il y a aussi cet esprit entrepreneurial de Madeleine et Molière dont vous parlez. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas d'écrire une pièce, ils ne se contentent pas d'imprimer aussi ces pièces, parce que ça fait... Là aussi, ça ramène du chiffre d'affaires. Hein. C'est bon pour mettre du beurre dans les épinards. Mais il va y avoir tout un travail là aussi pour faire connaître la pièce, pour aller vers le public.
Oui, et surtout en prenant toujours un sujet qui sera un sujet qui va marcher. C'est-à-dire que là encore, par exemple, une pièce comme Le bourgeois gentilhomme, c'est beaucoup moins une pièce sur le bourgeois gentilhomme qu'une pièce sur la dernière visite de l'ambassadeur turc en France, que toute la cour a encore en tête. Et donc, on se saisit de cette actualité pour en faire une pièce. Alors, ça finit par s'appeler Le bourgeois gentilhomme, mais en réalité, l'important dans cette pièce, c'est la cérémonie des Turcs. Donc, il y a ce travail-là de capter l'actualité et en même temps, effectivement, de la créer en utilisant tout ce qui est à disposition, les médias, les journaux, des billets gratuits et pour la cour. Évidemment, on va en visite, on s'assure de lire la pièce, par exemple, à l'avance dans les salons, en bonne compagnie, en lisant des extraits seulement pour donner envie. Donc, il y a effectivement tout ce travail de Molière et de Madeleine Béjart qui, par ailleurs, jouissent d'une vraie valeur de marque. C'est-à-dire que si Molière peut se mettre en scène dans L'impromptu de Versailles comme ça, c'est aussi parce que Molière, c'est déjà une star. Il n'y a pas tous les auteurs, il n'y a pas toutes les autrices qui peuvent faire ça. Pour la plupart, on s'en ficherait de les voir en scène. Là, il se met en scène parce qu'il est déjà une star. Et donc, quand une pièce de Molière est annoncée, ça assure d'emblée un bonus d'attention des rentrées supérieures aux autres, au point que certains auteurs tentent de faire passer leurs pièces pour des pièces de Molière.
C'est 50 sols, hein, on pourrait l'appeler, avec la monnaie de l'époque. On le disait, hein, c'est billets gratuits, 10% sur les boissons, des programmes de fidélité, c'est extrêmement moderne. Mais ça montre aussi que faire tourner un théâtre, c'est, à l'époque, c'est comme gérer une entreprise.
C'est vraiment ça. Et là encore, les contemporains le voient et le décrivent comme ça. Il y a un ouvrage qui s'appelle Le Théâtre français d'un certain Samuel Chapuzot, qui est une mine d'informations sur l'organisation des troupes, hein, donc qui est quasiment contemporain de Molière, c'est quelques années après la mort de Molière, et qui décrit le fonctionnement du monde théâtral français. Et vous lisez vraiment l'organisation entrepreneuriale des troupes, ça se fait, ça se défait, ça fait faillite, ça se constitue, on se distribue les parts, on est obligé d'assurer X, Y, on fait très attention à la publicité, il y a toute une série d'investissements, il y a le registre de Lagrange, mais on a conservé aussi quelques extraits de registres autres qui sont beaucoup plus détaillés. Je veux dire, une production, c'est extrêmement compliqué. C'est, encore une fois, pas du tout le théâtre de Tréteau de Bois. Hein. C'est vraiment, il y a des frais de costume, il y a des frais de danseur, il y a des frais extraordinaires de publicité, il y a des frais, etc. Et on en parle aussi dans le livre à l'occasion de la production de Psyché.
Oui, oui, on a fait une infographie spéciale sur ça, sur le coût de Psyché. Hein. Psyché, pour Molière, c'est carrément Broadway, quoi, parce que là, on est dans le grand spectacle et on a accès, on a la chance d'avoir accès à des documents qui nous détaillent toutes les dépenses inhérentes à la création de cette pièce. Et donc, comme le disait Christophe, là, on a un vrai inventaire à la Prévert, quoi, sur qui une couturière, des rubans, des plumes pour faire du coup les costumes, mais également des choses auxquelles on ne s'attendrait pas forcément. Il faut aussi pouvoir payer les portiers, il faut aussi pouvoir payer les soldats qui vont assurer la sécurité pendant la pièce, et puis il faut payer les menuisiers, les clous, les vis, enfin, c'est vraiment pour le coup. C'est le spectacle total, y compris dans le financement qu'on doit en faire.
Et c'est des budgets énormes.
Molière, il est mort sur scène, ou presque. Enfin, en tout cas, ça fait partie de sa légende. Il était riche.
Il est mort très riche. Alors, on peut le voir de deux manières. Bon, d'abord, encore une fois, pour les contemporains, c'est une évidence. On le dit dans ses nécrologies. Et dans le livre, Jules et Clara ont mis en infographie l'inventaire après décès de Molière. Et là aussi, c'est des sommes. Il possède de l'art, il possède des meubles visiblement très beaux. Il possède énormément de choses diverses. Encore une fois, un inventaire à la Prévert. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que la couverture, encore une fois, médiatique de Molière à sa mort, c'est quelque chose de gigantesque dont la plupart des nobles ne jouissent pas. Et là, il y a quelque chose aussi de très intéressant pour nous et dans l'histoire de notre monde, c'est-à-dire qu'on a affaire pour la première fois à une exposition médiatique supérieure d'un comédien par rapport à la noblesse qui montre le pouvoir de ce monde médiatique qui est en train d'émerger.
Sur cette infographie de l'inventaire après décès de Molière, ce qui est intéressant, c'est que c'est pour moi presque la meilleure illustration de en quoi l'infographie peut nous aider à se représenter des choses, notamment dans l'histoire et dans la littérature. Cet inventaire après décès, c'est pas Christophe qui l'a déterré dans un petit coffre, dans une pièce obscure, c'est quelque chose qui était déjà connu, mais en fait quand on le voit, c'est un bloc de texte sans aucun retour à la ligne, c'est très indigeste à lire, en plus c'est écrit avec une graphie et puis des mots qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et la seule manière de lire, c'est vraiment de le déchiffrer avec le doigt et on lit, ah tiens, des tableaux, ah tiens, des couteaux, ah tiens, des choses comme ça. Et il y a des chiffres qui sont mis entre parenthèses. Mais quand on est confronté à ce gros bloc de texte hein, qui doit faire pas loin des 10-12 000 signes, hein, je pense, on est dans l'impossibilité de se représenter la valeur des choses les unes par rapport aux autres. En revanche, quand on le lit, et nous, après notre travail, c'est de le remettre dans un tableur et de remettre les chiffres dans la bonne colonne des chiffres et puis après de faire une infographie avec. Et là, du coup, on a tout de suite une vision à la fois très globale et aussi qui va rentrer dans le détail de ce que ça représente.
Oui, il y avait plus de 1700 louis d'or. Alors, un alambic, ça aussi, ça m'a beaucoup fait rire. Et 6 caleçons de toile blanche, donc c'était vraiment très complet. Alors, Noël est passé, c'est dommage, hein, mais ne passez pas à côté de cet atlas de 272 pages qui ne raconte pas que l'histoire de Molière, mais aussi la vie sous Louis XIV, son rapport au monde. C'est aussi un aperçu de l'économie du théâtre de l'époque qui pourrait rappeler celle du football, y compris jusque dans les transferts. Ça a dû plaire à l'amateur de foot que vous êtes, Jules.
Mais ouais, bien sûr que ça m'a plu, et puis parce que ça a dit beaucoup de la modernité de Molière. Encore une fois, on parle de transfert, et on a affaire à un véritable mercato. C'est-à-dire que à la fin, c'est exactement comme dans notre football moderne. À la fin de la saison, les théâtres se jaugent un peu, se regardent entre eux, et puis ils vont se piquer des comédiens, quoi. Il y en a carrément qui vont partir chez la concurrence. Enfin, je pense que des fois, c'est l'équivalent de si un joueur du PSG décidait de partir à Marseille pendant l'intersaison. Donc, il y en a, je pense, qui passent carrément pour des traîtres quoi, à cette époque. Et on a fait deux infographies là-dessus dans l'Atlas. Et ça nous montre vraiment, encore une fois, la très grande modernité du théâtre de cette époque.
Voilà, c'est intéressant, souvent drôle. Et en plus, il y a plein d'illustrations comme ce flyer auteur imaginé du professeur Molière, auteur sérieux et discret. Le professeur Molière vous aide à surmonter vos galères telles que l'avarice, les maris jaloux, la recherche de financements royaux pour vos troupes de théâtre ou vos mariages. On pourrait, je pense, passer des heures à en parler, y compris des projets à grand spectacle de Molière, façon Christopher Nolan ou James Cameron, des 54 établissements qui portent son nom en France. Alors, quand on les regarde sur une carte, on distingue presque le cours de la Loire, c'est ce que vous écrivez, Jules. En termes de nom de rue, il apparaît en revanche loin derrière Hugo, Zola ou Voltaire. Merci, hein, Jules Grandin des Échos, et merci Christophe Chouvet, assistant professeur de français à l'université de Yale. À ce propos, et comment est-ce que vos étudiants américains regardent-ils Molière ?
Avec beaucoup de curiosité et de passion, c'est un peu le Shakespeare français pour eux, et Molière, ça représente à la fois la culture française, mais ça représente aussi tout ce monde du théâtre, tout ce monde de Versailles qui les fascine. Et donc Molière, ça marche très très bien, à la fois pour la langue et à la fois pour l'humour. Dès qu'on le lit en classe, on rit énormément.
La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.